les rois Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 28 juin 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia. Nous commençons par les titres. Au Sénégal, un député de l'opposition a été condamné à une peine de 6 mois de prison avec sursis et sa collègue parlementaire relaxée. En Guinée, début d'une concertation entre le gouvernement et les principales formations politiques pour une transition apaisée. Ce sera avec Zakaria Camara en seconde partie de cette édition. En République démocratique du Congo, le héros de l'indépendance, Patrice Lumumba, honoré à Kinshasa, dernière étape du périple de son cercueil en RDC. L'Éthiopie qualifie de déformation des faits des accusations du Soudan sur l'exécution par ses forces de 7 soldats et d'un civil soudanais à la frontière entre les deux pays. En Ukraine, 18 morts dans une attaque, une frappe russe sur un centre commercial, un crime de guerre pour le G7 qui termine aujourd'hui son sommet en Allemagne. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. La justice sénégalaise, jugée ce lundi à Dakar, la députée Mam Diarra Fam et son collègue Diétié Fall, qui est par ailleurs le mandataire national de la coalition d'opposition Yewi Askanui, arrêté lors de la manifestation interdite du 17 juin 2022, l'un a été condamné à une peine assortie du sursis, l'autre a été purement et simplement relaxé. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Libre, les députés Mam Diarra Fam et Diétié Fall ont quitté le tribunal de Dakar, libre, au bout de la nuit, et après un procès marathon qui s'est terminé peu avant 2h du matin, heure locale. La parlementaire Mam Diarra Fam a été purement et simplement relaxée, alors que le mandataire national de la coalition d'opposition Yewi Askanui, Diétié Fall, a été condamné à une peine de 6 mois avec sursis et a payé une amende. Le procureur de la République avait pourtant requis une peine de 1 an de prison, dont 6 mois ferme contre Diétié Fall, car pour lui, il est avéré que le député et mandataire de la coalition d'opposition Yewi Askanui a défié l'autorité de l'État en faisant ce qu'il considère comme un appel à l'insurrection. Le procureur avait également requis une peine de 6 mois ferme à l'encontre de la députée Mam Diarra Fam, coupable d'après lui d'avoir participé à une manifestation interdite par l'autorité publique. Des allégations réfutées par les 20 avocats de la défense. Pour eux, ce sont les forces de l'ordre qui sont allées cueillir les parlementaires à des endroits situés à plusieurs kilomètres de la place de la Nation où devait se tenir la manifestation. Suffisant d'après eux pour demander au tribunal d'abandonner les charges contre leurs clients. Un réquisitoire qui a eu un écho favorable puisque les juges ont relaxé la députée tout comme les 82 autres personnes arrêtées lors des heures du 17 juin 2022. Celle de Diétié Fall a été condamnée à une peine de 6 mois avec sursis. Plus tôt dans la journée, le tribunal du département de Guédiouaï avait également condamné le maire de la ville à une peine d'un mois assortie du sursis. C'est une vague à Dakar pour VOA Afrique.
En RDC, le cercueil de Patrice Lumumba est arrivé lundi à Kinshasa, dernière étape du pèlerinage mémoriel qui a retracé la vie du héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le point avec Abdourahmane Dia.
L'avion transportant sa dépouille a quitté Lubumbashi hier lundi. Les drapeaux sont en berne sur l'ensemble du territoire à l'occasion d'un deuil national jusqu'au 30 juin. Le président Félix Tshisekedi, à la tête du comité d'accueil à l'aéroport de Ndjili de Kinshasa, s'est brièvement incliné devant le cercueil recouvert d'un drapeau congolais. Comme aux étapes du Sankuru, sa terre natale, de Kisangani, ancien fief politique du héros national, et du Haut-Katanga, le lieu de son assassinat le 17 janvier 1961, un programme culturel et religieux est prévu à Kinshasa. La cérémonie d'inhumation est prévue le jeudi 30 juin, jour de la fête de l'indépendance, dans un site aménagé sur une grande artère de la capitale congolaise qui porte le nom de ce martyr et héros national. Assassiné par des indépendantiste Katangé avec l'aide de mercenaires belges. Le corps de Patrice Emery Lumumba n'a jamais été retrouvé. Un ancien policier belge avait dit que le cadavre a été dissous dans de l'acide et le seul reste, une dent, a été conservé en Belgique qu'il a restitué le 20 juin à la RDC.
L'Éthiopie a déclaré hier qu'elle rejetait ce qu'elle appelle la déformation des faits concernant un incident sur la frontière avec le Soudan. Khartoum avait accusé l'armée éthiopienne d'avoir exécuté 7 soldats soudanais en civil. Les détails avec Rosine Mounezero.
Le Soudan a juré de réagir à ce qu'il a qualifié d'acte de trahison et a annoncé qu'il rappelle son ambassadeur à Addis Abeba. Mais le gouvernement éthiopien a déclaré qu'il pensait que l'incident du 22 juin a été délibérément concocté pour nuire aux relations entre les deux pays. Le gouvernement éthiopien rejette catégoriquement la déformation de ces faits par les forces de défense soudanaises, qui rejettent injustement la faute sur l'Éthiopie, alors que c'est l'unité de l'armée soudanaise qui a franchi la frontière en provoquant l'incident. Dans son communiqué, le ministère éthiopien des Affaires étrangères indique que l'incident a eu lieu sur le territoire éthiopien après des incursions d'une unité de l'armée régulière soudanaise soutenue par des éléments du TPLF. Il ajoute qu'une enquête sera bientôt menée. L'Éthiopie a exprimé l'espoir que le Soudan s'abstienne de toute escalade et prenne des mesures susceptibles de désamorcer la situation.
Au Maroc, la justice a décidé de poursuivre 65 migrants, en majorité des Soudanais, pour avoir participé à la tentative de passage en force meurtrière vendredi dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc, indique la Défense. Pour sa part, l'Union africaine veut une enquête sur le traitement violent et dégradant de migrants africains. Nani Talani fait le point.
Selon la Défense, la majorité des accusés sont originaires du Darfour, dans l'ouest du Soudan, en proie à une grave crise alimentaire et où de récentes violences ont fait plus de 125 morts et provoqué le déplacement de 50 000 personnes. D'autres sont tchadiens et maliens, un est yéménite. Près de 2 000 migrants ont tenté de pénétrer par la force vendredi matin dans l'enclave espagnole de Melilla, située en territoire marocain. Au moins 23 d'entre eux ont péri et 140 policiers ont été blessés, selon les autorités locales marocaines. L'Association marocaine des droits de l'homme a, elle, fait état de 27 clandestins décédés. Selon les autorités marocaines, les 23 ont trouvé la mort dans des bousculades ou en chutant de la clôture de fer lors d'un assaut marqué par l'usage de méthodes très violentes de la part des migrants. Le chef de la commission de l'Union africaine, le tchadien Moussa Faki Mahamat, a dénoncé dimanche soir le traitement violent et dégradant de migrants africains. Des ambassadeurs africains accrédités au Maroc avaient été reçus dimanche par des responsables des ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur à Rabat. Une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue mercredi sur ce drame.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un bombardement russe a fait au moins 18 morts dans un centre commercial en Ukraine, selon le dernier bilan du secours, provoquant une vive condamnation des pays du G7 réunis en Allemagne, qui ont dénoncé un crime de guerre et une attaque abominable, assurant que Vladimir Poutine, le président russe, devra rendre des comptes. Une frappe russe a également tué dans la journée 8 civils à un point de distribution d'eau dans l'Est, selon Kiev, qui en a appelé au G7 pour mettre fin à la guerre. C'est l'un des actes terroristes les plus éhontés de l'histoire européenne, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à propos du centre commercial. Le G7 a promis son soutien à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. C'est aujourd'hui que le sommet du G7 prend fin au Château d'Elmont en Bavière, en Allemagne. Les dirigeants des 7 nations les plus industrialisées envisagent d'édulcorer un engagement à ne plus financer de projets d'énergie fossile à l'étranger, alors que certains pays peinent à remplacer les importations d'énergie russe. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Le projet de résolution sur le climat comprend toujours la promesse d'arrêter de financer de nouveaux projets de combustibles fossiles à l'étranger d'ici à la fin de 2022 pour aider à atteindre l'objectif de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Mais les défenseurs de l'environnement craignent que la guerre en Ukraine n'incite les pays du G7 à revenir sur leurs promesses en matière de climat, alors qu'ils sont confrontés à une baisse de l'approvisionnement en gaz russe et à une flambée des coûts énergétiques. Des circonstances exceptionnelles pourraient autoriser des investissements publics dans le secteur du gaz devenu nécessaire en tant que réponse temporaire. L'Allemagne et l'Italie, qui dépendent toutes deux fortement des importations de gaz russe, auraient exercé les plus fortes pressions, a indiqué une source ayant requis l'anonymat à l'AFP. Les défenseurs de l'environnement soupçonnent l'Allemagne, hôte du sommet du G7, de vouloir développer des projets gaziers au Sénégal, dont les dirigeants ont été invités à Elmo.
Le nombre de personnes retrouvées mortes lundi dans un camion au Texas s'élève à au moins 46 et 16 blessés selon un nouveau bilan. Les camions sont un moyen de transport fréquemment utilisé par des migrants clandestins. La Minute Éco, Nathalie Barge.
La Banque africaine de développement a validé la création d'une fondation africaine pour la technologie pharmaceutique qui offrira de nouvelles perspectives sanitaires au continent, souligne la BAD. L'Afrique importe plus de 70% des médicaments qui lui sont nécessaires pour un coût annuel de 14 milliards de dollars. La Banque centrale du Zimbabwe a annoncé hier relever son principal taux directeur à 200%, soit le taux le plus élevé au monde. L'inflation annuelle a plus que doublé en deux mois pour atteindre 191% en ce mois de juin. Le taux avait été relevé de 60 à 80% en avril. Et la Banque mondiale a accordé 715 millions de dollars de dons et prêts à l'Éthiopie, indiquait le gouvernement éthiopien. Selon le ministère des Finances, le financement prévoit 600 millions de dollars, dont 200 millions de dons pour la mise en place du programme de résilience des systèmes alimentaire et ensuite 115 millions sous forme de dons dans le cadre d'un programme pour les économies pastorales dans la Corne de l'Afrique.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football, le gardien français Alphonse Areola est définitivement recruté par West Ham.
Le gardien du Paris Saint-Germain, champion du monde 2018, actuel troisième gardien d'équipe de France, a signé un contrat de 5 ans jusqu'à l'été 2027, avec une année supplémentaire en option, a précisé le club anglais sans révéler le montant du transfert. Alphonse était un atout énorme pour le club lors de son prêt la saison dernière. Ses performances ont conforté notre idée de le voir comme un gardien de haut niveau, a déclaré dans un communiqué son entraîneur David Moyes. West Ham est le septième du dernier championnat d'Angleterre.
Le Brésilien Fernandinho retourne à l'Atlético Paranaense.
Ancien capitaine emblématique du Manchester City de Pep Guardiola va porter à nouveau le maillot de l'Atlético Paranaense au Brésil. 20 ans après ses débuts, a annoncé lundi le club de Curitiba. Arrivé à City en juillet 2013, Fernandinho a remporté de nombreux trophées nationaux, mais jamais la Ligue des Champions. Il a terminé son contrat avec City sur un cinquième titre de champion d'Angleterre, après avoir débuté à 17 ans et remporté le championnat de l'État du Paraná en 2005. Il était d'abord parti au Shakhtar Donetsk en Ukraine et avait remporté au total une dizaine de trophées, dont la Ligue Europa en 2009. Fernandinho a participé aux Coupes du Monde 2014 et 2018.
Le Los Angeles FC confirme l'arrivée de Gareth Bale.
L'arrivée du capitaine du Pays de Galles, Los Angeles, a été confirmée hier lundi par le club de la Major League Soccer MLS avec un contrat de 12 mois et des options jusqu'en 2024. Après 9 ans passés au Real Madrid, 258 matchs, 106 buts, 67 passes décisives et a récolté 19 trophées dont 5 victoires en Ligue des Champions marquant deux fois en finale en 2014 et 2018. Bale a accumulé 105 sélections sous le maillot gallois depuis 2006 avec un bilan provisoire de 28 buts et 22 passes décisives. Il a permis à son pays de se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar, une première depuis 64 ans. Après avoir débuté à Southampton, Bale a porté le maillot de Tottenham de 2007 à 2013, 146 matchs, 42 buts, puis il est parti au Real Madrid.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, les partis politiques et les acteurs de la société civile ont entamé lundi un dialogue avec le Premier ministre Mohamed Béavogui. Depuis plusieurs mois, une partie de la classe politique réclame un cadre du dialogue pour la réussite de la transition. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
L'appel au dialogue du Premier ministre a été répondu par une large majorité des acteurs sociopolitiques, y compris ceux qui ont boudé les différentes concertations. Après une première journée, certains représentants des partis politiques ont affirmé ne pas vouloir revenir. Vice-président de l'UFDG, parti de Sélu d'Alain Diallo.
Il n'y a pas eu de dialogue et il n'y a pas de volonté. Et le Premier ministre l'a prouvé qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ils ne veulent pas sortir de cette situation de transition. C'est une fuite en avant, c'est une déception totale. On s'attendait à un discours plus clair, plus net, plus précis de la part du Premier ministre. Il est allé à côté, je pense que c'est une déception. Je le dis, au nom de l'ANAD, nous ne ferons plus jamais un autre mémo par rapport à ça.
La main tendue du Premier ministre guinéen est très commentée à Conakry. Pour Ibrahima, l'ouverture du dialogue est un soulagement.
L'ouverture de ce cadre de dialogue, c'est un soulagement pour les populations de la Guinée. Et les gens attendent à ce que le pouvoir entende raison. Pourquoi entendre raison depuis 5 mois, depuis 9 mois, le 5 septembre, la junte au pouvoir ne parle pas sincèrement avec les autres acteurs sociopolitiques du pays.
Le contexte est marqué par une crise de confiance. Pour Tidjane, chaque parti prêche pour sa chapelle.
Le bilan qu'il faut poser, c'est parce que peut-être le premier cadre n'a pas marché. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête de fonctionner comme ça parce qu'il y a beaucoup d'enjeux par rapport à cette transition. Encore une fois, c'est juste une question d'ego.
Une partie de la classe politique accuse les militaires de faire cavalier seul. Et ce cadre du dialogue ne semble pas rassurer Mohamed Kaba, analyste de l'actualité guinéenne.
La solution, elle est éminemment politique, qu'on n'ait plus que les vrais acteurs et qu'on coupe la porte en deux. Mais ce qui se passe avec le Premier ministre, c'est encore de la poudre aux yeux, on est en train de blâmer les Guinéens. La personne qui a le dernier mot en Guinée, c'est le colonel Mamadou Doumbouya.
Les acteurs sociopolitiques sont divisés sur la durée de la transition. La junte a proposé 3 ans, mais les activités pour le retour à l'ordre constitutionnel n'ont toujours pas démarré. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Différents acteurs sociaux de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, lancent une forte mobilisation contre la stigmatisation et la xénophobie dont sont victimes les populations des communautés tutsi présentes sur le sol congolais. Dans certains quartiers de Goma, elles sont pointées du doigt comme des complices des rebelles du M23. Un reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Neti Zaidi.
La mobilisation contre la stigmatisation et la xénophobie s'intensifie dans la ville touristique de la RDC. Le président de la communauté Tutsi du Nord Kivu espère voir la situation revenir au bon vieux temps où la cohésion sociale et la cohabitation pacifique étaient une réalité. David Karambi appelle les autres leaders communautaires à ne pas baisser les bras dans cette lutte qu'il juge noble.
Avec les amis des autres communautés, à l'unisson, nous voulons conquérir la paix. La paix qu'on a vécue dans les temps passés.
C'est le même discours que tiennent les organisations des jeunes et des mouvements citoyens. Hervé Amani, du mouvement citoyen Filimbi, trouve inacceptable qu'en temps de guerre, les gens en arrivent à se montrer du doigt. Il estime que c'est une façon de participer au jeu de l'ennemi.
Nous, en tant que leaders d'opinion, nous avons cette tâche-là d'interdire ou bien de bannir ces messages de haine, et de la xénophobie et de discrimination envers d'autres communautés. Appeler les gens à ne pas céder au jeu de l'ennemi. L'ennemi veut que nous soyons divisés, en fait qu'il nous contrôle, en fait qu'il nous atteigne.
Pour la présidente du parti politique Nouvel Élan dans la province du Nord Kivu, les populations doivent faire la part des choses. Kayumba Mami estime que le Congo a affaire à la politique de Kigali et non aux populations parlant le Kinyarwanda.
Nous n'avons pas besoin que ce qui s'est passé au Rwanda se répète au Nord Kivu. Non, on n'a pas besoin de ça. Il y a plus de 300 ethnies, plus de 200 tribus au Congo. Et je crois que la promotion de la paix, la promotion du bien-être, ça, c'est ça la meilleure pour nous tous. Et bénéfique pour nous tous.
José Moufoula, un député national, demande aux citoyens congolais en général et dans la province du Nord Kivu en particulier de mettre de côté ce qui divise le peuple et de se rallier aux forces armées de la RDC au lieu de faire de la discrimination.
J'exhorte à tous d'éviter tout acte de profilage racial, la stigmatisation ainsi que la xénophobie. Privilégions plutôt le vivre ensemble, comme depuis toujours, par l'amour du prochain et la tolérance.
Pour rappel, c'est depuis la publication du communiqué du gouvernement congolais indexant le Rwanda comme un pays servant des bases arrières aux rebelles du M23 que le message de haine et de xénophobie ont pris de l'ampleur dans l'est du pays. Zanem Netizaïdi à Goma pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Togo, le Festival des Lettres et des Arts fait la part belle aux langues locales. Au centre des attractions cette année, de la poésie en langue évé et une conférence animée exclusivement en évé. Une touche originale qu'apporte l'association Nimble Feathers de la Faculté des Lettres, Langues et Arts de l'Université de Lomé, initiatrice du festival. Un reportage d'Amen Assignon à Lomé.
Des syllabes et des mots, des rimes et des vers pour exprimer son état d'âme à travers la poésie, mais en langue locale. La 5e édition du Festival des Lettres et des Arts apporte une touche originale cette année en mettant en valeur la langue évé, une langue parlée au Togo et au Ghana voisin. Pour l'écrivain togolais Kanye Alem, c'est un choix audacieux.
Nous passons notre temps à dire qu'il faut utiliser nos langues. Mais on découvre que c'est le même travail, la même profondeur qu'il faut, le même dévouement qu'il faut pour montrer toutes les capacités qu'une langue recèle. L'évé que nous avons entendu à travers la poésie peut être aussi hermétique que le français, parce que c'est le genre lui-même qui est complexe. Il faudrait que cette expérience soit renouvelée à plusieurs niveaux, même au niveau de l'école primaire, permettre aux enfants de faire des résumés d'œuvres en évé, de parler, de chanter en évé, et ça stimule l'imagination.
Ateliers d'écriture, rencontres littéraires, expositions d'œuvres d'art, spectacles de théâtre, de contes constituent les attractions de cette édition. L'autre touche innovante est la conférence débat animée en langue évé par l'universitaire et écrivain ghanéen Kofi Anidoro.
J'enseigne l'anglais et la plupart de mes écrits sont en anglais. Un jour, ma sœur m'a posé la question de savoir pourquoi je n'écris que dans une langue étrangère et jamais dans nos langues locales. J'ai trouvé sa remarque pertinente. Et depuis lors, mes écrits sont en néwe. Nous avons certes fait des études dans les langues étrangères et acquis des connaissances, mais il est important pour nous, Africains, de retourner à nos sources afin de mettre nos connaissances au profit de nos communautés.
Le Festival Art est surtout une opportunité pour les étudiants de l'Université de Lomé d'expérimenter l'aspect pratique des connaissances acquises dans les amphithéâtres en lien avec les genres littéraires et les arts, et aussi de développer leurs talents dans ces domaines. Amena Sinon, Lomé, pour la VOA.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la Cour suprême des États-Unis, dominée par les conservateurs, révoque le droit à l'avortement au niveau fédéral et renvoie la balle aux États. Une décision qui annule un arrêt de près de 50 ans, suscitant la colère des partisans du droit à l'avortement et le soulagement de ceux qui s'opposent à cette pratique. Pourquoi la question de l'avortement reste un sujet clivant aux États-Unis? Comment cette décision de la Cour, après celle autorisant le port d'armes à feu en public, va-t-elle influencer le débat sociopolitique américain? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le président Joe Biden participe au sommet du G7 dans un contexte difficile avec la guerre en Ukraine et les ambitions de la Chine dans le monde entier. Washington annonce un plan d'investissement dans les infrastructures d'un montant de 600 milliards de dollars pour faire face au programme chinois appelé l'initiative La Ceinture et la Route. La correspondante de VOA à la Maison-Blanche, Anita Powell, nous en dit plus. C'est un récit d'Abdourahmane Dia.
Les démocraties libérales les plus riches du monde ont beaucoup de sujets sur la table lors de leur sommet en Allemagne. Le défi le plus immédiat, Kiev, en Ukraine, a subi une nouvelle attaque russe ce week-end. Lors du sommet, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que la sécurité de l'Ukraine est une priorité absolue.
L'Allemagne et les États-Unis agiront toujours ensemble en ce qui concerne les questions de sécurité de l'Ukraine, et nous l'avons une fois de plus précisé.
Le G7 a déclaré dimanche qu'il continuerait de cibler l'économie russe en interdisant les importations d'or de ce pays, une mesure venue s'ajouter à la longue liste des sanctions. Mais les leaders du G7 sont aussi préoccupés par les défis posés par la Chine. Dimanche, ils ont annoncé des investissements dans les infrastructures de 600 milliards de dollars qui visent à donner aux pays en développement une alternative à l'initiative chinoise, la ceinture et la route. Joe Biden, président des États-Unis.
Je veux être clair, il ne s'agit pas d'aide ou de charité. C'est un investissement qui profitera à tout le monde, y compris le peuple américain et les peuples de toutes nos nations. Cela améliorera toutes nos économies. Et c'est une chance pour nous de partager nos visions positives de l'avenir et de laisser le monde entier voir les avantages concrets d'un partenariat avec les démocraties.
Des sinologues affirment que le G7 fait face à une concurrence féroce de la Chine. Robert Daly, spécialiste de la Chine au Woodrow Wilson Center.
Non seulement les États-Unis et l'Europe, mais le Japon, l'Australie sont tous très préoccupés par cela. Et ils essayent tous d'offrir des choix aux pays emprunteurs pour qu'ils ne se sentent pas obligés de se tourner vers la Chine pour obtenir des prêts. Le problème est qu'il y a des lenteurs bureaucratiques. Ils ne peuvent pas rivaliser avec les décaissements rapides que la Chine fournit par les biais de son initiative. Et en fournissant cet argent, la Chine est en mesure de renforcer une certaine dépendance.
Le G7 a également invité des pays comme l'Afrique du Sud et l'Inde. Ces deux États ont récemment assisté au sommet virtuel des BRICS qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, où le président chinois Xi Jinping a critiqué les efforts des démocraties occidentales pour isoler économiquement la Russie. Autre sujet de préoccupation pour le G7, le changement climatique, la pandémie et les chocs économiques mondiaux.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoulia au micro. à la mise en onde Lionel Runanira Gaïma, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.